Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 Pépites, le podcast feel good qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de 3 enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents.
Bonjour, comment ça va?
Mais très bien, merci de m'accueillir.
Et toi?
Je t'en prie.
Je viens juste de rentrer. J'ai à peine regardé tes questions. Donc je vais les re-regarder de là-haut. On va laisser là-haut.
Bonjour.
Marie-Bastien.
Enchantée.
Ta chambre à toi, quoi?
C'est ma chambre à moi.
Je sais pas dans quel
état on va la trouver parce que j'ai donné un temps.
Oh, ça va.
Merci, Lily, de m'accueillir chez toi. On est dans l'espace où je te vois à travers l'écran habituellement quand tu fais tes séances de Kundalini en ligne.
C'est ma chambre à moi.
Exactement, quelle chance. On est trop bien ici, je suis hyper bien reçue. Tu viens de me faire une petite tisane de l'infuseur et je suis ravie de passer ce petit temps avec toi.
Ben moi aussi.
Lily, je te l'ai dit rapidement quand on s'est rencontrés la première fois. Je t'associe beaucoup à ma deuxième grossesse puisque, étant enceinte, j'ai écouté Nouveau Chapitre, le podcast de Marie, il y a 3 ans maintenant. Et t'es la première qui a formulé ce terme de doula en fin de podcast. Et tu citais notamment Laure-Hélène. J'ai écouté le conseil, j'ai adoré ta façon d'en parler. J'étais enceinte et là, je me suis dit, mais c'est un signe. Je vais direct contacter cette nana. Très belle rencontre, ça a rythmé aussi ma deuxième grossesse. Ça a complètement changé ma vision, je pense, de la femme, de l'accouchement. Enfin, tout ça a vraiment eu un gros impact. Donc, je voulais te remercier parce que sans le savoir directement, tu fais partie de ma vie de femme.
Bah, je suis très touchée. C'est vrai que c'était un bel épisode. Et c'était un sujet, d'ailleurs, dont je n'avais pas vraiment parlé jusque-là et sur lequel on m'interroge assez rarement. Donc, voilà, celui de la grossesse et, ouais, et de l'accouchement.
Voilà. Donc, voilà comment j'ai entendu parler de toi. À l'origine. Et puis ensuite, là, on s'est rencontrés il y a un mois. Et je t'ai proposé, comme ça, au détour de la conversation, tiens, ça ne te dirait pas qu'on enregistre et qu'on parle ensemble de la famille. Et tu as très simplement accepté. Et nous voilà aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui?
Bah, je t'ai trouvé sympathique, déjà, pour commencer. J'ai bien aimé la manière dont tu es venue vers moi. Et ensuite, on était dans un contexte particulier parce que on était là pour honorer Amélie Chaléa qui venait de lancer une nouvelle collection Aller l'amour. Ouais. J'aime beaucoup cette fille. On se connaît depuis très longtemps. Je suis son évolution. Et y a un côté, les amis de mes amis sont mes amis. C'était très fluide dans l'échange, donc j'ai dit oui.
Génial, merci. On est en tout cas aujourd'hui là pour parler de famille en général. Et puis de la tienne en particulier. Moi, j'ai créé 1, 2, 3 pépites parce que j'ai une grosse fascination pour la famille, puisque c'est de là d'où on est, d'où l'on vient. Tout le monde a sa famille, chacun ses modèles, et chacun poursuit ce modèle ou pas, s'en affranchit, et se construit en tout cas par rapport à ça ou en opposition à ça. Et donc voilà, je suis très curieuse des chemins de vie et de comment on devient notamment mère et comment on construit sa famille. J'ai une tradition dans ce podcast. Justement, par rapport à ce sujet de transmission, je demande toujours la Madeleine de Proust de mes invités. C'est quoi, Lily, ta Madeleine de Proust?
Il n'y en a pas qu'une, mais je dirais que parmi les choses qui vraiment me font voyager dans le passé, qui me ramènent à un moment délicieux, c'est très gourmand, mais il y a la profiterole au chocolat. Quand j'étais petite, ma mère organisait des dîners. J'imagine que certains étaient avec mon père, d'autres juste elle qui organisait des dîners avec ses amis. Elle aime beaucoup recevoir, je crois, toujours. Et moi, j'étais fascinée par la préparation du dîner et par les restes. Et comme j'étais la première levée le matin, déjà à l'époque, j'adorais ces tables du lendemain, ces tables où il y a des cigarettes qui sont écrasées dans des coupes de glace, parce qu'on n'a pas trouvé le cendrier, les traces de rouge à lèvres sur les verres. J'adorais mettre la table, c'est une habitude qui ne m'a pas quittée. J'adorais qu'on sorte les jolis couverts, les belles assiettes, le linge de table de fête, les porte-couteaux. Je me souviens de porte-couteaux, je crois qu'ils étaient en marbre ou en pierre, et ils me fascinaient. Donc, tout cette Art de vivre me plaisait beaucoup. Et ma mère faisait des espèces de petits choux, une pâte à choux, qu'elle remplissait avec de la crème fouettée et sur laquelle elle faisait couler du chocolat chaud. Et ça partait en 2 secondes. Enfin, je veux dire, les invités adoraient ça. Et c'est vrai que c'est l'un de mes desserts préférés encore aujourd'hui. Elle faisait ça particulièrement bien. Et le lendemain, j'étais tellement gourmande que j'allais lécher les assiettes avec les restes. Tu vois, les trucs dans les...
Entamés.
Et donc ça, c'est un souvenir absolument délicieux. Et à chaque fois qu'on me sert des profiteroles dans un restaurant, même dans des super bons restaurants, je suis toujours déçue quand on met une boule de glace vanille. J'ai l'impression que c'est comme un blasphème, quoi. C'est comme si on venait saloper mon souvenir. Quand c'est de la crème chantilly de mauvaise qualité ou qu'elle est trop sucrée, je trouve ça pas bon. Je veux que le chocolat noir soit très noir. Donc, j'ai des petites manies. La pâte à choux, souvent, je trouve qu'elle est trop sèche. Donc, en fait, c'est cette madeleine rêvée après laquelle je cours qui, peut-être, n'a jamais véritablement existé autre part que dans mon souvenir.
Est-ce que tu peux peut-être démarrer par... te présenter avec quelques mots, mais j'aime bien aussi avoir une dimension un peu différente. Là, j'ai interviewé Lucille Gomez qui a écrit notamment sur la naissance et qui parle des super pouvoirs. Et donc, j'ai envie de te demander dans ta présentation de me dire quel est ton super pouvoir, toi, Lily.
Je crois que l'un de mes super pouvoirs, c'est d'arriver à rire des situations de la vie, même quand elles sont difficiles. Ça, c'est vraiment un grand pouvoir d'avoir ça, d'arriver à rire même quand on traverse des moments horribles. Une autre de mes qualités, je dirais que c'est quelque chose qui est assez constitutif, c'est la générosité, parfois qui peut être un peu maladive. C'est un chemin d'âme plus, quoi, à toujours vouloir en faire plus, plus, plus.
Est-ce que tu peux me présenter ta famille ?
Alors, je suis mariée avec un homme qui s'appelle Bastien Coulon, qui est artiste. On est ensemble depuis 21 ans et on a une fille qui a 15 ans et demi et qu'on aime comme des dingues. Voilà ma famille. Ça, c'est vraiment ceux qui sont ma sève, l'écorce, les branches, les arbres, les racines. J'ai vraiment... je me sens bien avec eux, je me sens bien chez moi avec eux. Et c'est sans doute, là, je te reçois chez moi, mais... l'endroit où je me sens le plus en sécurité, c'est avec eux. J'ai la chance d'avoir une relation très complice avec ma fille. Cette complicité-là, je ne l'ai pas du tout connue, moi, dans mon adolescence. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est parfait et qu'il n'y a pas des moments où on ne se saoule pas l'une et l'autre. Hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à passer du temps avec elle. Et aussi à voir ses copains, ses copines. J'adore, en fait, moi, on m'avait dit « Ah là là, ça va être horrible, l'adolescence ». Pour le moment, je trouve qu'il y a des difficultés, en fait, à accompagner un adolescent, bien sûr, et à être là dans cet âge si particulier de construction, de déconstruction, de fragilité émotionnelle. Mais c'est en même temps absolument délicieux de la voir devenir une adulte progressivement, et d'être de plus en plus en phase en termes d'humour, de questions aussi, de questions philosophiques. On peut vraiment échanger sur des questions qui, là, dépassent... Avant, j'avais l'impression que j'étais sans doute un parent référent du fait de mon âge par rapport à elle. Aujourd'hui, l'échange, il est beaucoup plus horizontal.
Une relation presque maintenant d'adulte à adulte, puisqu'elle...
Oui, alors elle ne l'est pas. Donc, c'est toute la difficulté quand on accompagne les adolescents, c'est que justement... c'est comme du Canada Dry, ils ont la couleur de la bière, ils ont le goût de la bière, mais ça n'est pas de la bière. Et c'est pareil, là, ce n'est pas des adultes encore. Donc, il faut aussi beaucoup veiller à ne pas les traiter comme des adultes, à respecter le fait que c'est encore des personnes en construction qui vivent des grands bouleversements hormonaux, des grands bouleversements émotionnels, qui se cherchent, à qui on demande beaucoup de choses. On leur demande, on leur exige de déjà tracer une voie pour l'avenir. Et donc, l'écueil, c'est comme ils sont grands, et ma fille est plus grande que moi, moi je suis déjà grande, mais elle est plus grande que moi, c'est de les prendre en fait pour une personne adulte. Et on voit vite que ça n'est pas le cas et qu'il faut, il faut prendre soin encore. Ça reste... Enfin, il reste encore des personnes plus fragiles que des adultes qui sont déjà très ancrés dans la vie.
En tout cas, tu donnes l'impression d'une relation, en effet, apaisée et vraiment de compréhension de cette période. Et je pense que c'est le fait aussi de se mettre à leur place. Tu parlais de bouleversements hormonaux. Enfin, tout ça, ça a un énorme impact. Donc, quand on a conscience de ça, j'imagine en tant que parent que ça peut peut-être déjà aider un petit peu plus pour...
Moi, je suis frappée par... Enfin, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais ça paraît très lointain. Mm-hmm. En revanche, j'ai des souvenirs très frais de mon adolescence. C'est-à-dire que cette partie-là, je peux la contacter très facilement. Et j'ai l'impression que c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Mm. C'est-à-dire que je me trompe dans les décennies, là, quand il faut compter les 10, les 20 ans, les 30 ans en arrière. Je peux très facilement, en fait, en anglais, il y a ce verbe qui est « relate ». Donc, me mettre en lien avec ce qu'elle traverse, c'est très frais encore.
La Lily adolescente n'est pas si loin.
Non, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de parents qui accompagnent des adolescents, c'est qu'on est frappé par le fait d'être d'un seul coup renvoyé à notre adolescence. Mm. Et de toute façon, tous les âges nous renvoient à l'âge que ça, l'enfant est en train de vivre, hein. Mais oui, moi, ça me trouble vraiment de voir que tout ça est très frais, beaucoup plus frais que, par exemple, la décennie de mes 20 ans, mmh. où c'est plus flou, en fait, ces années-là. Mais là, je me souviens de mes premiers chagrins d'amour, je me souviens des premières humiliations, des trahisons, des moments, des ruptures amicales, de cette peur aussi à l'école de ne pas prendre la bonne direction, de ne pas savoir ce que je veux dans la vie, de... Tout ça, c'est encore très frais. Je me souviens de comment je me sentais par rapport à mon corps. Et du coup, je vois qu'on est très différentes, elle et moi, qu'on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes. Et donc, j'apprends aussi... je ne peux pas appliquer les règles qui ont fonctionné avec moi avec elle. Ce n'est pas possible.
Alors, comment tu fais, du coup, pour naviguer dans ce chemin ?
Ben, on apprend ensemble, en fait. Mm-hmm. Je crois que, de toute façon, être parent, c'est sans arrêt se remettre en question... se rendre compte qu'on a merdé à un endroit, tenter de réparer, abandonner sa culpabilité pour se mettre en chemin et réparer. On apprend par nos échecs, nos erreurs, les moments où on se prend un mur. Et puis on avance aussi avec là où l'enfant veut bien nous amener. Voilà, moi, je rencontre des difficultés qui sont propres à notre famille. Elles me paraissent... de loin beaucoup plus simple que celle auxquelles j'étais confrontée quand j'étais adolescente, parce que j'ai une famille qu'on peut qualifier de dysfonctionnelle.
Ouais, on le sent dans quelques mots que tu distilles. En effet, j'ai aussi pu lire La Réconciliation, ton premier livre, ton premier.
En fait, j'ai fait un livre de cuisine avant, mais c'est le premier récit en tout cas.
Où tu te livres beaucoup. Tu te livres beaucoup et en même temps, je ne pourrais pas dire quel est le dysfonctionnement, donc ça reste tout en pudeur. Donc, je ne te poserai pas la question en frontale, mais peut-être ce qui est intéressant d'évoquer ensemble, c'est à partir d'un schéma comme ça qui est sur le papier et dans ta vie difficile, comment l'envie de créer une famille, sa propre famille, d'élever un enfant, t'a traversé, comment... Voilà, je veux bien que tu me parcours ça entre ton schéma d'origine et celui que tu as construit.
Moi, j'étais absolument convaincue que je voulais avoir des enfants. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi, assez tôt. D'ailleurs, je pense que parmi mon groupe de copines, j'étais celle à 14 ans qui faisait le plus de babysitting. Je n'arrêtais pas de m'occuper des tout-petits. Et j'étais plutôt douée avec les enfants, aussi parce que j'ai beaucoup traîné en colonie de vacances, j'aimais bien la collectivité, j'aimais bien être avec des gens très différents. C'était évident que je rêvais de fonder une famille. Et j'avais évidemment, je m'étais jurée crachée qu'elle serait très différente de celle que j'ai connue. Alors ça, check, elle est très différente. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? J'en sais rien. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on... On connaît moins de souffrances et de difficultés, en tout cas dans celle qui s'est créée, qu'on a créée avec Bastien et à laquelle ma fille participe pleinement.
Quelles ont été tes ressources, toi, pour arriver à ce chemin ?
Bah, je dirais que d'abord, il y a un travail psychanalytique qui a été démarré très tôt, à l'âge de 16 ans, de manière vraiment dans une urgence de vie ou de mort, en fait, hein, de me dire... soit je cède à toute l'envie de mourir et j'avais l'impression de devenir folle, en fait. Me dire que j'étais seule. Je rêvais de vivre loin, de vivre ailleurs, Je rêvais de fuguer. J'ai d'ailleurs disparu à plusieurs reprises. Enfin, okay. Voilà, je...
T'as grandi où ?
J'ai grandi à Orléans, puis ensuite à Paris. Et quand j'ai habité à Paris, ça a été vraiment particulièrement difficile parce que je venais de perdre mon père. Je me suis retrouvée en tête-à-tête dans un appartement que ma mère avait acheté qui ne me plaisait pas du tout. Et, mais ce n'était pas parce que l'appartement ne me plaisait pas que la relation était difficile. Hein. mais disons que cet espace a cristallisé en fait, beaucoup de choses qui étaient dures. Et moi, je fais toujours attention en fait, à la manière dont je m'exprime parce que ma mère est très sensible sur ces sujets. Okay. Et que je ne veux pas mettre le feu là où j'ai mis un temps fou à apaiser les choses. Mmh. Donc, en fait, moi, je suis convaincue que les parents font comme ils peuvent avec leur niveau de conscience et leur niveau d'éveil et qu'ils comparent beaucoup les situations à ce qu'ils ont connu. Et donc, s'ils ont beaucoup souffert et qu'ils ont l'impression qu'ils font déjà beaucoup mieux que leurs propres parents, souvent, ils s'imaginent que c'est déjà mieux. Et d'ailleurs, si on écoute ce que je viens de dire, je dis à peu près la même chose. Donc, est-ce qu'on peut réussir à échapper à ça ? C'est difficile. On a toujours l'impression que finalement, on a déjà fait un peu mieux. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi, je pense que c'était des moments qui étaient assez compliqués et que j'ai eu de la chance, en fait. À plein de moments, j'ai eu de la chance. D'abord, j'ai eu des profs... fantastique, qui ne savait pas ce que je vivais, mais qui quand même m'aimait beaucoup. Et donc, j'ai reçu en fait une forme de validation dont j'avais besoin à travers l'école. J'avais une bande d'amis qui a représenté une famille et j'ai toujours continué. Enfin, je veux dire, ça n'a pas cessé. En fait, les amis, pour moi, sont hyper importants. Et
oui, quand je t'ai demandé qu'on parle famille, je me souviens, tu m'as même dit, oh ben moi, je veux bien te parler de la famille qu'on se construit. Donc là, j'imagine avec Bastien et ta fille, et même la famille plus élargie qu'on se construit avec son entourage, oui. Ses potes. Enfin, oui. Pour toi, c'est la famille ?
Ah bah pour moi, c'est la famille. Je veux dire, la marraine de ma fille, elle a 5 ans de moins que moi, mais pour moi, c'est comme ma sœur. Évidemment, on n'a pas la même mère, on n'a pas la même histoire, mais les liens qui nous lient sont très puissants. Mon mari est le parrain de leur fils. On passe tous nos étés ensemble. Je passe plus de temps avec mes amis qu'avec mes oncles et tantes que j'ai connus quand j'étais enfant, mais qui me connaissent finalement assez peu aujourd'hui. Mmh. Et quant à la famille de Bastien, on se voit, bien sûr, et on a une relation assez chouette, mais c'est assez distant parce que tous les deux, je crois qu'on n'est pas très famille dans le sens où... alors, je dis ça et en même temps, on passe toutes nos vacances ensemble tous les trois.
Oui, vous êtes famille, le noyau dur. Quoi.
Ah ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a un plaisir fou à être ensemble. Mm. Mais oui, je pense que ma fille, elle aurait bien aimé qu'il y ait des tonnes de cousins dans tous les sens. Oui. C'est pas le cas. Donc, on fait avec. Et j'ai deux neveux absolument géniaux que j'adore. Enfin voilà, avec qui ma fille s'entend super bien. Mais non, on n'est pas très famille dans le sens où moi, j'ai des amis qui déjeunent avec leurs parents chaque semaine ou qui appellent leurs parents deux fois par semaine ou qui ont une relation avec leur sœur quotidienne. Je ne connais pas ça. Donc, il a fallu inventer autre chose. Mais oui, pour répondre à ta question précédente, la psychanalyse a été une ressource très importante pour moi, les amis. Ensuite, je suis sortie d'un long travail analytique. Et puis, il a fallu trouver plein d'autres thérapies. Parce que quand on a été abîmé, quand on était petit, il n'y a pas de méthode qui va retirer ça. On vit avec, on apprend à vivre avec ses blessures. Mmh. Et puis, on fait comme on peut. Et moi, j'ai de la chance parce que je pense que j'ai une résilience qui est gigantesque, quoi. Donc ça, je m'en rends compte parce que je me répare assez rapidement, en fait. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Donc, tu parlais des super-pouvoirs. Je crois que vraiment, la résilience, c'est une grande chance.
Est-ce que tu pourrais me définir, selon toi, ce qu'est la famille ?
Pour moi, de toute façon, on peut la définir comme on veut. On est, de toute manière, on est issus d'un endroit et on va vers un autre. Donc, qu'on ait des enfants, qu'on voit nos parents ou pas, de toute façon... on fait partie d'un arbre. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une exposition en fait, d'une artiste soudanaise absolument géniale à Londres. Et elle dessine des espèces d'arbres comme ça, où il y a des centaines et des centaines et des centaines de cellules qui dorment dans les racines. On ne peut pas... Moi, j'ai eu l'illusion, en fait, quand j'étais ado et pendant ma première vingtaine, dans mes années de 20 ans, je me disais, moi, j'arracherais tout, en fait. J'arracherais tout ce qui s'est passé avant. Je veux rien d'avant. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et avoir un enfant, ça m'a obligée, en fait, à me rebrancher à toute ma lignée, de tous les côtés, à pardonner à ceux que je n'avais pas connus mais qui avaient commis des choses terribles, à me réconcilier en fait à plein de niveaux, à plein d'endroits, parce que d'abord se décharger de ce qu'on ne connaît pas mais dont on a hérité, on ne peut pas le faire en arrachant les racines, ça n'est pas possible. C'est comme un espèce de monstre aux plantes, quoi. Tu vois, ça revient. Ouais. Parce que moi, je crois pas à l'atavisme et au côté, tu vois, parce que sinon, ça voudrait dire que les violeurs sont forcément, tu vois, engendrent des violeurs, etc. Et il se trouve que c'est pas forcément le cas, bien évidemment. Mais je crois que c'est important de savoir ce qu'on porte comme héritage. Et surtout de s'alléger en fait du poids des secrets pour au fur et à mesure voilà transmettre quelque chose d'un petit peu plus neutre. Maintenant ma fille, elle est héritière de tout ça et ça fera à la fois des difficultés pour elle et sa richesse.
Là, tout ce que tu évoques, ça parle beaucoup de transgénérationnel, de transmission. Est-ce que tu as découvert des choses à travers, des constellations familiales, des discussions est-ce qu'il y a eu des révélations qui se sont faites sur le tard et qui t'ont permis d'avancer ?
Non, je n'ai pas participé à des constellations familiales. Je connais beaucoup de gens qui adorent cet outil. Enfin, j'ai travaillé à plein de niveaux différents. Il y a des livres, des lectures qui m'ont beaucoup touchée. J'ai quand même une légère obsession pour les gens qui parlent de leurs parents en littérature et qui parlent de leur lignée. Mais même un travail comme le livre « Ligne de faille » de Nancy Houston, qui est un livre qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, sur la lignée justement, et qui part des années 90 pour aller retourner en arrière en fait, dans l'histoire d'une famille. Ça me fascine, ouais. J'adore ça. Et malheureusement, tout le monde n'a pas ce goût-là dans ma famille, parce que moi, j'adorerais être comme une enquêtrice, en fait. je trouve que c'est tellement dingue, les répétitions. Un jour, j'avais quand même fait un travail...
Enquêtrice sur ta propre famille, tu veux dire ?
Oui, bien sûr.
Pour fouiller l'arbre généalogique.
Mais pour comprendre, en fait, les répétitions. J'avais fait un travail quand même dans un stage de yoga, dans le cadre d'une formation pour devenir enseignante. J'étais déjà enseignante, mais c'était des espèces de stages... Des modules en plus pour essayer de comprendre, d'avoir des dimensions supplémentaires de compréhension de ce qu'on enseignait. Et c'était un stage où on a beaucoup travaillé sur la famille et sur nos ancêtres. Et donc, on a dessiné pendant toute la semaine des grands arbres généalogiques en notant les naissances, les avortements, les enfants abandonnés, les enfants morts-nés, les viols, les abus sexuels. On avait plein de moyens en fait, différents d'identifier en fait, sur une lignée à partir de ce qu'on savait, bien sûr, parce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas, mais sur ce qu'on savait, d'identifier sur notre étage à nous et puis l'étage au-dessus et encore au-dessus. Et là, sous nos yeux, c'était dingue parce qu'on se disait « mais c'est pas possible ». La répétition de... Moi, en tout cas, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus à leurs parents. Énormément. Mais à tous les étages.
D'accord.
Et donc, on se dit, mais c'est quand même fou, en fait. C'est quoi ? Qu'est-ce qui, à un moment, a merdé à ce point ? Et qu'est-ce qu'on transmet d'invisible ? Donc, moi, j'avais à cœur de me dire, quand tu le dessines, et je mets au défi n'importe quelle personne de faire ça, en fait, sur un sujet qui l'intéresse, et on voit à quel point il y a des répétitions.
Ça me fait beaucoup penser à Mai Hua que j'ai eu à ce micro. Ça paraît incroyable.
Mais Mai et moi, on a été très très proches à une époque et ça nous fascinait. On avait des discussions sans fin là-dessus de cette répétition et est-ce qu'on peut y échapper ? Évidemment, moi, à 16 ans, je me jurais cracher que j'allais y échapper. C'était mon but
d'où
ultime.
D'où te vient cette force? Tu le sentais au plus profond de toi?
Ah bah de toute façon, c'était soit ça, soit je crevais, quoi. Ouais. Voilà.
Pas le choix, presque, en fait. C'était une question.
Non, j'étais obsédée par le suicide. Je me disais que j'allais mettre fin à mes jours. Donc, heureusement, j'avais deux routes qui se séparaient et j'ai choisi la vie.
Il y a un autre sujet, moi, qui me plaît beaucoup, qui est le sujet identitaire. L'identité, quand j'ai pensé à toi, forcément, j'ai tiqué sur ton nom de Lily, qui n'est pas ton nom donné par tes parents. J'ai cru comprendre que c'était une histoire quand tu travaillais chez Colette et qu'il y avait une autre... Donc tu vas peut-être révéler ton vrai prénom pour ceux qui ne savent pas.
Je m'appelle Lisa.
Tu t'appelles Lisa.
Mais en fait, il n'y a personne qui m'appelle Lisa en dehors de ma mère et mon frère. Qui d'autre m'appelle Lisa? Bah si, les membres de ma famille qui sont encore vivants.
Donc tu t'appelles Lisa et tu étais chez Colette, tu travaillais là-bas, il y avait une autre Lisa et on t'a suggéré pourquoi pas d'avoir un surnom.
En fait, on ne m'a pas suggéré pourquoi pas, on m'a demandé d'adopter un autre prénom parce qu'on allait nous confondre, on allait travailler sur le même plateau.
Et tu étais OK avec ça?
En fait, je m'en fichais un peu parce que j'étais convaincue que j'allais rester 15 jours. Et c'est comme ça que c'est né. Et je lui ai dit, Lily, pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien. Je crois que c'est pas... De toute façon, ça n'est absolument pas un hasard. Il y aurait vraiment... Enfin, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études en psychologie pour se rendre compte que c'était un moyen d'entrer en rupture, en fait, avec...
Il y a un avant-après,
bien sûr, avec mon identité bien de naissance. Sûr. C'était un moyen de m'émanciper. Finalement, ce travail n'a pas été un travail de 15 jours du tout. Je pensais que j'allais juste gagner un peu de sous quelques jours et puis m'arrêter. En fait, j'y ai quand même travaillé, 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Et je me souviens qu'on m'avait fait des cartes de visite en mettant Lisa Barbery, aka Lily. Mm-hmm. Et en fait, je n'arrivais plus à me réapproprier
Lisa. Tu n'étais
plus
Lisa.
C'était trop tard. En fait, tous les journalistes me connaissaient sous le nom de Lily, ce milieu-là aussi. Et du coup, c'était presque comme s'il y avait une nouvelle personne. En plus, moi, je m'étais vraiment habituée. Donc, quand on me disait Lisa, j'avais...
Ouais,
mon mari ne m'a pas connue Lisa, il m'a connue Lily. Quand on s'est mariés en 2009, à la mairie, le maire prononce l'intégralité de mon blaze, donc avec mon prénom Lisa et mes autres prénoms. Et ma fille, qui avait même pas 2 ans, a dit « Non, maman, c'est Lily. » Mais quand je passe dans un aéroport, je m'appelle Lisa à nouveau. Quand je dois montrer des papiers à la sécu, je m'appelle
évidemment,
Lisa. Ma banque
toi.
M'appelle Lisa. Donc, du coup, je suis ramenée à mon identité à des moments très précis qui sont plutôt administratifs. Et ça me permet de ne pas oublier que Lily Barbery, c'est aussi... c'est comme un nom professionnel,
oui,
quoi.
Ton nom de scène, hein, on peut le dire.
Je sais pas, voilà.
Non, mais je plaisante, mais en tout cas, ce côté, lié vraiment à la Lily aussi publique, en tout cas. Celle qui donne les cours, qui écrit.
J'avais cette espèce de fantasme, je me disais, un jour j'écrirai un roman, je travaille régulièrement sur 2 romans en même temps, mais bon, qui n'aboutissent pas. Et je me disais, je le signerai peut-être Lisa.
Ouais.
Là, ça fait quand même longtemps que je travaille. Chiche, on verra.
Oui. Intéressant. Bon, tu vois, j'avais fait la psychologie de comptoir, comme on dit, et je pense qu'il y a quand même de ça quand tu dis... Lisa un certain temps et puis Lily nouvelle version. Dans les sujets liés à la famille et à ton rôle de maman, j'aime bien aussi évoquer les équilibres de vie. Comment tu arrives à organiser tu as fait le choix de changer de vie, c'est une reconversion, ton métier de professeur de yoga, mais comment tu allies ton temps entre ta vie de famille, ta vie de professeur de yoga et plus.
Moi, en fait, ces questions, je sais qu'elles sont importantes pour les femmes qui écoutent parce que ça leur donne la certitude et la conviction que c'est possible. Et en même temps, on ne pose pas ces questions aux hommes. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il y a des moments où je loupe des choses ou bien j'ai loupé des choses. Je suis moins absente aujourd'hui que je l'étais quand j'étais journaliste. Finalement, quand j'étais journaliste, c'est là où j'étais... le plus prise par des voyages, par beaucoup de sollicitations à l'extérieur, par beaucoup de dîners à l'extérieur, de dîners professionnels où j'étais en représentation du journal pour lequel je travaillais. J'en ai plus souffert quand ma fille était petite, même si aujourd'hui, à l'adolescence, on aurait tort de croire qu'on est libéré en fait, de nos responsabilités. C'est hyper important, il me semble, sans faire d'injonction, parce que chacun fait bien comme il peut. mais qu'ils ont un grand besoin, en fait, de nous. Et voilà. Mais non, comment j'ai compilé, je ne me suis pas trop posé ces questions. En tout cas, je n'ai jamais considéré ma fille comme un frein à mon évolution. Mais je me suis posé pas mal de questions. Moi, j'ai eu la chance, pour les journaux pour lesquels j'ai travaillé, d'être libre de beaucoup travailler de chez moi. Mmh. En particulier quand j'étais à Vogue, j'ai quasiment fait toutes mes années comme si j'étais pigiste, alors que j'étais salariée du journal, enfin du magazine. Et ça, pour moi, ça me donnait beaucoup d'équilibre, en fait, de pouvoir être à la maison et à la fois d'avoir plein de rendez-vous à l'extérieur pendant le temps où elle était à la crèche. Mais quand elle en sortait, j'étais là et j'ai renoncé à plusieurs boulots où on me proposait, en fait, de travailler très tard. Le soir, et moi, ça c'était pas du tout envisageable pour moi quand elle était petite, et encore aujourd'hui j'aimerais pas, parce que s'il y a bien un truc qui soude notre famille, c'est que on dîne tous les soirs ensemble, à part quand on a un truc les uns les autres, mais sinon si on est ensemble, on dîne tous les soirs ensemble à table, pas devant la télé, à table. C'est un truc qui pour moi est hyper important. Voilà,
ça me fait penser à la question du rituel. Est-ce que tu as un rituel de famille?
Bah, pour le coup, oui, celui-là il est vraiment important pour nous. Après, il y en a plein d'autres qui viennent s'additionner.
Tu penses à quelque chose en particulier ?
Ben, on aime bien regarder des séries ensemble. Et puis ben là, ça devient chouette parce qu'on peut en partager même des choses qui semblaient... On s'est fait très tardivement, parce que Jeanne et moi ne l'avions jamais vu, tout Games of Thrones. Donc mon mari avait déjà tout vu, lui, de son côté. Il n'avait pas arrêté de me vanter la série il y a 7 ou 10 ans, en fait, quand elle se faisait au fur et à mesure. Et moi, ça ne m'attirait pas du tout. Et quand ils ont commencé à choisir cette série, je me suis dit, ah non, là, le côté médiéval, ils sont tous crados, c'est dans la boue, c'est dégueu, c'est ultra violent. Et en fait,
t'es prêt au jeu.
C'est trop génial.
Donc ça, c'était la série Murphy récente.
Ouais, que je ne recommande pas à tous les adolescents, parce que c'est très, 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 très violent. Mais ça a donné lieu à des discussions géniales. En fait, on adore regarder des films ensemble. Et comme elle a envie de devenir actrice, du coup, on essaye de la nourrir. On s'est fait des cycles aussi. Mon mari avait choisi de lui faire voir tous les films oscarisés. C'est trop bien, en fait, de faire ça. C'est
et après,
génial.
D'échanger ensemble. C'est ça que tu veux dire,
sûr.
Surtout de pouvoir débattre ensuite de ce qu'on a ressenti, qui, quoi, comment. Tu l'accompagnes comment vers ce rêve ?
On a choisi une école qui lui permet de faire du théâtre tous les après-midi. Donc, on a mis du temps à trouver la scolarité qui était celle qui lui conviendrait le mieux, parce qu'elle était très décidée et très tôt. Elle fait du théâtre et de la comédie musicale et des cours de plein de choses autour de l'acting depuis vraiment longtemps. Moi, j'ai tout fait pour qu'elle fasse de la danse classique parce que c'était mon rêve quand j'étais petite. Ça n'a pas trop accroché.
L'émancipation dès le plus jeune âge.
Non, puis c'était intéressant parce que je me souviens d'avoir interviewé, je faisais un article pour M, le magazine du Monde, sur le courant, l'utilisation de la danse dans la publicité pour les parfums, etc. Et j'avais interviewé une sociologue qui m'avait dit ce qui est intéressant quand même aussi dans tous ces archétypes autour de la danse, c'est quand même aussi tout ce que ça dit sur... le genre féminin, le fait que les filles ont l'école à la danse classique. Et alors, du coup, je lui pose plein de questions. Et puis, je lui dis, bon, écoutez, je dois vous dire que moi, j'ai inscrit ma fille à la danse classique. Je lui ai pas trop demandé son avis. Je trouvais ça tellement mignon, les petits tutus, tout ça.
Le kiff des mamans, parfois.
Elle m'a répondu 2-3 trucs sans du tout m'accuser. Mais elle m'a dit, mais posez-vous cette question. Demandez-vous, en fait, pourquoi c'est si important que votre fille soit élégante, que... elle soit gracieuse, etc. Et elle m'a dit, est-ce que vous ne l'enfermez pas, en fait, là-dedans ? Et surtout, est-ce qu'elle a véritablement choisi, quoi ? Et en fait, de toute façon, je ne peux pas faire à cette personne ce que je veux. Ça n'est pas possible.
Et c'est bien, c'est une grande force qu'elle a. Ça me fait penser quand même au rapport au corps aussi. T'as un rapport au corps qui a été difficile, qui est maintenant beaucoup plus apaisé. Quand on a une fille, c'est le genre de sujet qu'on a forcément en tête aussi.
Ouais, alors j'ai eu la chance d'avoir on avait un pédiatre absolument génial, hein, qui s'appelait le docteur Philippe Grandsen, qui a écrit Bébé, dis-moi qui tu es.
Oui, je connais bien.
Je remercierai toute ma vie la personne qui m'a mis ce livre entre mes mains quand j'étais enceinte et qui m'a recommandé de prendre rendez-vous avec ce pédiatre qui était le pédiatre de ses enfants.
C'est vrai que c'est un très beau livre où on se met tout de suite à la place de l'enfant et on change un peu de regard.
Oui, et puis c'est surtout très déculpabilisant pour les parents. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de rendre à l'enfant une place, parce que ça, je dirais qu'il y avait d'autres psychanalystes qui l'avaient fait avant. Et puis lui, il n'est pas psychanalyste, il est pédiatre, mais c'est un peu un manuel, d'ailleurs je crois que c'est le sous-titre du livre, un guide d'anti-puériculture. Mmh. Et moi ça m'a beaucoup aidée. Et ce que j'ai adoré avec cet homme, c'est qu'il a tout de suite questionné des choses très importantes, comme par exemple, j'allaitais et il m'a dit « Pourquoi est-ce que vous allaitez ?» Je suis hyper surprise qu'un pédiatre me pose cette question. Je pensais qu'il allait me dire « Bravo madame ».
Ouais, il questionnait les choix, quoi.
Et non, il me disait « le meilleur moyen de nourrir votre enfant, c'est que vous soyez vous épanouie. Donc moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez fait ce choix. Est-ce que vous êtes heureuse d'allaiter ou bien est-ce que ça vous rend triste ?» D'un seul coup, je me suis rendu compte que je ne m'étais même pas posé cette question. Mmh. Donc, c'était vraiment intéressant. Et lorsque Jeanne était, tu sais, après la diversification alimentaire, je ne sais plus exactement à quel moment c'est, mais c'était un bébé qui mangeait tout, qui était contente de tout. Et puis, vers 2 ans, au moment de ce qu'on appelle le terrible two, de ce que les Anglais appellent comme ça, où l'enfant prend conscience que le corps de sa mère n'est pas un prolongement de son propre corps, il la rejette assez violemment. Pas que sa mère, mais enfin quand même, la mère en prend plein la gueule.
Pour son grade.
Et je me souviens que d'un seul coup, tout ce que je proposais à manger, qui avait très bien fonctionné jusque-là, il appelle ça l'adolescence des bébés, et il parlait de cette crise où ils ne veulent plus manger que du blanc. Du riz, des pâtes, du pain. Et donc, bon, ça ne concernait pas que ma fille. Effectivement, il y avait beaucoup d'enfants qui, d'un seul coup, ne voulaient plus voir la tronche d'un légume. Et alors, moi, je le prenais hyper mal. Parce que je mettais tout mon cœur dans la constitution des repas, que j'essayais de trouver des super goûts, que j'adore cuisiner. Et d'un seul coup, le fait qu'elle n'aime pas, qu'elle ne veuille pas, alors que ça avait très bien fonctionné avant, qu'elle réclame à nouveau un biberon de lait alors qu'on en était complètement sortis. Et...
Tu le prenais personnellement?
Ah bah pour moi, j'étais en échec.
Ouais, enfin, ouais,
j'étais en échec.
C'est ça la difficulté.
Quand on y pense. Non,
oui.
Mais c'est dingue, en
quand
fait.
Quand on prend un peu de recul. Mais
la pression qu'on se met sur des trucs du genre, je sais pas, notre enfant mange avec une cuillère puis d'un seul coup, il réclame à nouveau un biberon et on a l'impression que c'est un gros problème alors qu'on s'en contrefou qu'un jour, il mangera. Non. Si j'avais un enfant aujourd'hui, je l'élèverais évidemment pas du tout avec la même tension que j'avais à cette époque-là. Et donc, je vais le voir et je lui dis, je suis très inquiète parce qu'en fait, Jeanne, elle veut plus manger que des petites coquillettes le soir ou du pain ou du lait, mais elle veut plus du tout manger de légumes. Et bon, à la crèche, elle mange tout ce qu'elle veut à la crèche. Ça se passe très bien, mais avec nous, elle est vraiment bloquée. Et là, ça va être l'été, il n'y aura plus la crèche pour apporter de l'équilibre alimentaire. Et du coup, elle ne mange vraiment pas du tout de légumes avec nous, quoi. Et là, il me dit, mais vous voulez qu'elle ait des troubles du comportement alimentaire, votre gosse? Et je lui dis, bah non. Et alors, franchement, évidemment, cette phrase, elle résonnait beaucoup avec ce que moi, j'avais vécu, dont je m'étais libérée. Et donc, je lui dis, non, pas du tout. Et il me dit, écoutez, vous allez lui fiche la paix. Vous allez la laisser tranquille, mais vraiment quoi, laissez-la tranquille, c'est pas grave si elle mange que du blanc, que des pâtes pendant 1 an même, on s'en fout, ne mettez pas trop d'affect là-dedans, et il y a un moment, si vous mangez sainement, elle mangera comme vous, donc le plat préparé pour tout le monde, il est à table, elle veut pas manger comme vous lui préparez des petites pâtes, par contre la seule chose que je vous demande c'est de ne pas lui donner à manger toute la journée. Elle mange pendant les repas, elle fait un gros goûter et quand le repas est terminé, il faut attendre le repas d'après pour manger. Et c'était un conseil génial. Ça a dédramatisé complètement le lien avec l'alimentation. Et il y a un truc que je savais parce que je l'avais beaucoup travaillé moi, c'était que je ne voulais pas forcer ma fille à finir son assiette. Moi, c'était le truc où...
Ouais, où tu savais que tu ne le
je ne voulais pas être là-dedans. C'était hors de question parce que je connais très bien les effets néfastes en fait, de finir son assiette et de se forcer à manger quand on n'a plus faim. J'ai toujours laissé Jeanne, même si elle avait commencé et qu'elle disait « j'ai plus faim », c'était toujours respecté. Et je me réjouis de voir que aujourd'hui, elle a 15 ans et demi et même un truc qu'elle adore, mais vraiment qu'elle adore, quand elle n'a plus faim, elle est capable de s'arrêter.
Mmh. Or, à l'écoute de son corps. Quoi.
Ah mais c'est vraiment, quand même, de ses sensations corporelles.
Ce qui est génial à cet âge-là aussi.
Bah, parce ouais, qu'on sait c'est que quand même tellement précieux évident. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avoir une relation apaisée à son corps. C'est de savoir quand est-ce qu'on a faim et quand est-ce qu'on est en satiété. Après, moi, on ne mange pas du tout pareil à la maison. Et j'ai renoncé, en fait.
Ah, tu veux dire chacun son plat, quoi.
C'est pas chacun ensemble, son plat, mais
pas forcément la même chose.
On se bat pour les sujets qui sont vraiment importants pour nous.
C'est quoi tes sujets importants ?
Qu'elle soit gentille avec son entourage, ça c'est important pour moi. Quand je me rends compte qu'elle n'est pas sympa avec quelqu'un, ça c'est vraiment un truc sur lequel je ne veux pas transiger. C'est rare, mais bon voilà, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Oui, être respectueux des autres. J'aime pas trop si elle se met à juger, c'est aussi, ça fait partie de son âge, mais si elle se met à juger physiquement quelqu'un, ça je viens très fort, je monte très fort au créneau. Oui, pour moi, les qualités humaines sont bien plus importantes que... Alors, il y a des gens qui arrivent à tout. Hein. Donc, bravo à ses parents qui arrivent à mettre des légumes dans l'assiette et tout ça. En fait, je trouve qu'elle ne mange pas si mal, en vérité, mais je ne me bats pas, quoi. Je ne me bats pas. Je propose. Et quand les deux, mon mari et ma fille, font une gueule dégoûtée devant un plat que je trouve super bon ou en tout cas pas intéressé, je dis, OK, bah, vous faites ce que vous voulez. Quoi.
Oui, chacun.
Mais moi, je ne cuisine pas deux trucs différents. Je veux dire, s'ils ont envie de manger différemment, chacun se démerde.
On est d'accord. Très bien. Évidemment, je te pose cette question, je la pose à chaque fois, mais le mantra de maman. Alors là, une professeure de yoga, as-tu un petit mantra qui te guide dans ta vie de maman ? C'est ça qui est peut-être un peu plus difficile.
Non, je n'ai pas vraiment de mantra, mais j'essaye d'y aller mollo avec la culpabilité. Parce que moi, j'ai une grande... J'avais très, très peur d'abîmer ma fille. J'avais très peur de reproduire. J'avais très peur voilà, d'avoir les mêmes rapports que ceux que j'ai pu avoir avec ma mère et qui sont encore tellement fragiles et compliqués aujourd'hui. J'essaye. Quand j'identifie qu'il y a beaucoup de culpabilité et il y en a chez moi par rapport à ça, c'est bien le sujet où je suis la plus fragile, c'est celui-ci, de travailler sur j'accepte et je peux réparer. C'est super de se remettre en question. C'est très important. Je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer et de se rendre compte quand on s'est trompé. Et la culpabilité, elle peut nous permettre de nous rendre compte qu'on s'est trompé à un moment. Et donc, c'est pas non, il n'y a pas à se sentir coupable. Non, parfois, c'est important. On se sent coupable, mais comment est-ce qu'on peut changer de trajectoire ? Et moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est de se dire, quand je repère que je me sens coupable, de faire en sorte de... Qu'est-ce que je peux réparer ? Sur ce que je ne peux pas réparer, ben de lâcher et d'aller tout de suite en parler à la fois avec mon mari et avec ma fille.
Est-ce qu'il y a, sur le thème de la famille, quelque chose que tu voudrais passer comme message qui est important pour toi à délivrer ?
Oui, moi je pense à tous ceux qui ont des histoires familiales difficiles, qui souffrent quand on fait la fête des mères, la fête des pères, parce qu'ils ont perdu des êtres chers, parce qu'ils ont grandi orphelins ou parce qu'ils ont grandi avec des parents... qui avaient eux-mêmes des propres difficultés, qui n'avaient pas guéri de leur situation familiale, etc. De ne pas se mettre trop de pression avec la famille, parce que la famille, on peut se la créer là où on veut. Parfois, c'est un collègue de travail. Parfois, c'est un professeur qui va jouer ce rôle. Parfois, c'est juste un mentor dans le boulot ou juste une petite voisine qui joue le rôle d'une grand-mère. En fait, la famille, à la fois, c'est tout ce qu'on a reçu en héritage et ce qu'on va transmettre. Mais on n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir des enfants pour transmettre. Et on n'a pas besoin d'avoir une famille parfaite pour avoir un héritage chouette à transmettre. Moi, je ne changerai rien de mon histoire.
Vraiment, intéressant,
pas,
ça.
Pas une virgule, quoi.
Tu n'as pas de colère ou de...
Oh bah si, j'ai toujours des colères que je traite et sur lesquelles je reviens. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que ça me constitue tout ça.
Oui.
Et
tu es là
le
aujourd'hui
pire comme le meilleur. Enfin,
dans cette
voilà.
configuration grâce à tout ça. Oui, je comprends. Et tu es la preuve aussi qu'en effet, on peut construire une jolie famille qui t'est chère et ton noyau dur
Oui, alors après, moi, j'attends toujours... J'ai déjà entendu quelqu'un dire « De toute façon, l'éducation des enfants, elle ne se juge que quand ils sont adultes. Mmh. » C'est-à-dire que en vérité, là, tout ce qu'on a créé, c'est génial. Et voilà. Mais moi, mon plus grand cadeau, ce sera que ma fille soit autonome, libre de faire ce qu'elle a envie de faire, hein, qu'elle ait confiance en elle et en ses ressources, et qu'elle n'ait pas envie de traîner avec ses parents toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que le cadeau ultime, c'est de voir l'enfant qui ouvre ses ailes, qui prend son envol, et on est parent toute la vie, mais on n'a pas ses enfants avec soi toute la vie. Mmh. C'est un temps très court, en fait.
Ben oui.
Donc, ils sont de passage, et ben, j'espère qu'on continuera à avoir cette complicité, mais on verra bien comment les choses vont évoluer. Donc du coup, je ne veux pas me mettre dans une situation où je considère que j'ai déjà réussi quelque chose, mm-hmm. parce qu'en fait, on pourra le
c'est
tabler.
C'est à l'instant T, en
oui,
tout cas.
Oui, c'est ça. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis ah, bah, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Bah, attends de voir à la fin de ta vie pour pouvoir le dire.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu d'humilité aussi par rapport à tout ça. Mmh. Je te remercie, j'ai commencé cette interview avec notamment ta Madeleine de Proust. Je suis ravie de te laisser un petit cadeau pour faire éventuellement.
Tu m'as apporté des profiteroles au chocolat.
Non, j'étais pas devin, j'avais pas deviné les profiteroles, mais un petit clin d'œil aux Madeleines avec une préparation bio.
Ah, génial,
par Marlène,
merci beaucoup.
Qui soutient
merci.
Le podcast et que je suis ravie de faire
trop bien.
Passer à mes invités.
Merci beaucoup.
Merci à toi et je te souhaite une très belle suite et de toute manière, je te suis à travers l'écran.
Ah, merci.
Merci Lily.